Avez-vous eu dans votre vie un père idéal ? Dans une vidéo précédente, je vous parlais de toutes les souffrances que nous avons vécues parce que tout simplement, nous n'avons pas eu la mère idéale à laquelle nous aurions pu prétendre. Et je vous avais invité finalement à faire le deuil de cette mère idéale parce que tout simplement, une mère idéale, ça n'existe pas. Et je vous avais invité finalement, dans un deuxième temps, donc faire le deuil dans un premier temps et dans un deuxième temps, d'apprendre à être une mère pour vous. Et vous avez été extrêmement nombreux à réagir extrêmement positivement à cette proposition parce que c'est vrai que passer notre vie à projeter sur les autres l'image de la mère qu'on aurait voulu avoir et se demander si d'autres vont être plus capables de réaliser cette mission impossible, eh bien, c'est générateur tout simplement de souffrance. Alors, nous allons faire le même exercice par rapport au père, et vous me voyez déjà arriver, puisque le père idéal, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est un scoop, le père idéal n'existe pas non plus. Donc, tous ceux et toutes celles parmi vous qui sont en attente ou qui sont en regret de ne pas avoir eu le père idéal, eh bien, je vous assure tout de suite que je ne vais pas arriver à une conclusion différente de celle que j'avais traitée avec la mère. Le père idéal n'existe pas non plus. Nous avons eu des pères qui ont été beaucoup, très souvent, des pères absents, hein, des pères ou des pères démissionnaires. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, comme il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas réglé leurs problèmes avec leur mère, eh bien, en tant que pères de famille eux-mêmes, ils vont se soumettre à leur femme qui va devenir la maîtresse-femme, hein, c'est elle qui va porter les culottes. Et donc, finalement, les pères vont s'effacer et ne vont pas avoir grand-chose à dire dans le ménage. Bon, ça, c'est un autre type de père. On peut avoir eu un père trop autoritaire, c'est-à-dire celui qui n'est pas très souvent là, mais quand il est là, il fait trembler tout le monde et il impose sa loi à tout le monde. On a eu aussi peut-être des pères abuseurs. Bon, c'est vrai que quand on regarde les statistiques au niveau des abus sur les enfants, les abus sexuels sur les enfants, on sait que c'est une énorme majorité d'hommes qui abusent de leurs enfants ou de leurs beaux-enfants lorsque ce genre de choses arrive. Ça arrive quand même dans les statistiques qu'il y ait des femmes qui abusent sexuellement de leurs enfants, mais c'est extrêmement minime par rapport à la proportion d'hommes qui abusent de leurs enfants. Bien, donc en fait, nous avons eu plein d'expériences qui, de toute façon, quoi que nos pères aient fait, n'ont pas été satisfaisantes. Pourquoi ? Parce que de nouveau, le rôle de père est un rôle impossible à accomplir de façon parfaite. Quoi qu'on fasse, quels que soient les efforts que l'on fait, et je peux vous en parler moi-même en tant que père de trois filles, eh bien, en tant qu'expert de trois filles, puisque ah, c'est intéressant ça, expert, hein, ça fait de moi un expert. Non, c'est justement, je suis un expert de famille, puisque maintenant, je n'ai plus de responsabilité familiale, je n'ai plus de responsabilité parentale, mais je peux vous dire que quels que soient les efforts que j'ai faits, de toute façon, après avoir dialogué avec mes filles lorsqu'elles étaient plus grandes et lorsqu'elles sont devenues adultes, je me suis rendu compte qu'il y a un tas de comportements chez moi qui ont été des comportements blessants, qui ont été des comportements qui ont été vécus comme des manques par mes filles. Et c'est normal. Et je dirais que, à nouveau, il n'y a pas à se mettre martel en tête si on est soi-même père de famille et surtout, il n'y a pas à continuer à attendre qu'un père, un autre père que notre père biologique ou celui qui nous a éduqués, vienne remplacer et vienne combler tous les manques que nous avons vécus. Alors, je vais, comme dans la vidéo précédente, regarder un peu, passer en revue quels sont les grands archétypes qui nous parlent du père, hein, l'image du père. Alors, le premier archétype auquel j'ai pensé, évidemment, c'est l'archétype de Zeus. Jupiter en latin, hein, Jupiter et Zeus, c'est le même dieu. En fait, c'est le dieu de l'Olympe, hein, c'est le roi de l'Olympe, c'est celui qui a le pouvoir, qui a l'autorité. Et effectivement, c'est quelque chose qui traîne dans tous les inconscients au niveau du collectif, c'est que, à l'image de père, on associe l'image de l'autorité hiérarchique. D'accord ? Hein, c'est quand même Dieu le Père. Hein, c'est le Père a une espèce de pouvoir, de droit divin. C'est l'autorité, c'est le dictateur, c'est le petit père, le petit père des nations, etc. Donc, ce sont toutes des images qui sont liées à l'expansion et à l'autorité. Bien, et ça, c'est lié effectivement à toutes les histoires qui sont liées à Zeus et à Jupiter. Il y a un autre père qui est lié à un autre dieu de l'Olympe qui est Saturne. Alors Saturne, lui, c'est plus celui qui enseigne à travers l'épreuve. Hein, quand j'ai étudié l'astrologie humaniste de Lise Green et de Dane Rudyard, pour ceux qui connaissent ces références, eh bien, j'ai appris que Saturne, c'était celui qui enseigne à travers l'épreuve. Or, dans une approche d'astrologie psychologique, d'astrologie humaniste, hein, je ne vous parle pas de l'horoscope que vous avez dans vos journaux tous les matins et qui n'ont strictement aucune valeur, mais quand on se penche un peu sur la valeur symbolique de Saturne, Saturne, c'est la relation que vous avez avec votre père, c'est la relation que vous avez eue avec le masculin. C'est donc aussi une part de votre animus, une part seulement parce que Mars est une autre part de votre animus. Donc, Saturne, c'est celui qui enseigne, mais qui enseigne à travers des épreuves. C'est-à-dire, c'est celui qui va mettre l'enfant à l'épreuve pour que l'enfant acquiert des nouvelles compétences et puisse découvrir des forces que l'enfant ne soupçonnait pas avoir avant d'être mis à l'épreuve. Donc, derrière cette image de Saturne, il y a d'une part le père initiateur, hein, dans le sens du maître initiateur qui va faire passer une épreuve initiatique, et c'est aussi le père enseignant. C'est pas pour rien que jusqu'il y a peut-être 30 ou 40 ans, la profession de professeur, d'instituteur, etc., était une profession quasiment exclusivement masculine. C'est parce que l'enseignement était attribué de nouveau à l'image de l'homme, à l'image du père. D'ailleurs, la plupart des gourous en Inde, et gourou n'a absolument pas la connotation négative qu'elle a en France ou dans d'autres pays francophones, mais la plupart des gourous étaient des hommes. Hein, que ce soit Maharshi, que ce soit Osho, que ce soit Sri Aurobindo, etc. C'était tous des hommes, des enseignants. Bouddha était un homme, Jésus était un homme, Mahomet était un homme. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'enseignant et d'enseignant spirituel. Vous avez un troisième archétype qui est lié à la planète Mars. La planète Mars, c'est le dieu de la guerre, mais c'est aussi le dieu de l'action. Et effectivement, on s'attend dans le... Tiens, c'est drôle, hein, on entend le Satan. On s'attend à ce que, effectivement, les hommes, les pères, soient ceux qui agissent dans le monde extérieur, alors que les mères vont être au foyer pour prendre soin de leur enfant. Hein, souvenez-vous ce dont je vous parlais la fois dernière, hein, l'image archétypale de la mère idéale, c'est la mère qui est dédiée à 100% aux besoins de son enfant, alors que le père, c'est celui qui va à la chasse, qui va à la guerre et qui va rapporter de l'argent, qui va rapporter de la nourriture dans le foyer. Donc on a aussi cet archétype du père qui est celui qui passe à l'action, celui qui agit, celui qui se bat aussi. Voilà. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que Saturne est aussi lié au temps, à la chronologie, hein, chronos. Et effectivement, on a, avec le père, un rapport au temps qui va être très différent du rapport à la mère. La mère est prier de s'occuper de l'enfant et du besoin de l'enfant immédiatement. Donc, il y a une notion d'immédiateté dans le rapport aux besoins chez la mère. La mère doit répondre instantanément lorsque l'enfant a faim. Alors que le père, lui, va mettre une notion de délai. Il va dire à l'enfant, il va apprendre à l'enfant à attendre pour recevoir quelque chose. C'est le père qui va enseigner à l'enfant que parfois, il faut faire un certain nombre d'efforts pendant un certain temps pour obtenir ce que l'on veut. Hein? Et donc, pour vous donner un exemple assez basique, imaginez papa et maman qui ont acheté une bicyclette au mois d'octobre pour leur enfant, et l'enfant sait qu'il va avoir une bicyclette pour la Noël, et on est au mois d'octobre. Et, est-ce que je peux déjà rouler avec mon vélo? Et alors la mère va dire « mais oui mon chéri, évidemment », et le père va dire « non ». Le 25 décembre ou le 24 décembre, ce n'est pas encore aujourd'hui, tu dois encore attendre 60 jours. Et alors la mère va essayer d'intercéder en disant « mais oui, mais enfin, pour lui, 24 décembre, ça ne veut pas encore dire grand-chose, est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner le vélo maintenant ?» Vous voyez, ça c'est la polarité. La mère va essayer de satisfaire tout de suite le besoin, alors que le père va apprendre cette notion de patience, cette notion de temps, cette notion de délai, cette notion d'épreuve aussi. Je vais d'abord devoir faire des efforts pour obtenir une récompense par la suite. Et donc, remarquez, bon, ça c'est une petite parenthèse sociologique, que notre société actuelle n'est pas du tout, au niveau de la culture, une société patriarcale. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que quoi ? Qu'est-ce qu'on nous présente dans la société aujourd'hui ? On nous présente le bonheur tout de suite. Et maintenant, on nous propose d'acheter une salle à manger à crédit, vous ne payez rien maintenant et vous ne payez les intérêts que dans un an, etc. C'est-à-dire que toute cette société de consommation nous met plutôt dans une dynamique de fusion avec la mère plutôt que d'apprendre ce qu'est la discipline. Parce que c'est la dernière chose que le père nous apprend à travers l'épreuve, finalement. Il va nous apprendre cette discipline nécessaire à mettre en place pour obtenir justement le fruit de nos actions. Bien, donc, comme notre père idéal n'a pas existé, comme le père souvent n'a pas joué tous ses rôles dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le rôle d'enseignant, le rôle d'initiateur, le rôle de celui qui fait patienter, etc. Parce que très souvent, les pères ont démissionné ou les pères étaient tellement absents que lorsqu'ils sont présents avec leurs enfants, eh bien, ils surcompensent les besoins de l'enfant et finalement, ils sont même plus maternants vis-à-vis des enfants que les mères elles-mêmes, etc. Aux grandes dames des mères qui vont dire « mais tu détruis tous les efforts pédagogiques que je suis en train de faire », et c'est tout à fait vrai la plupart du temps. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'arrêter, d'attendre que votre père soit là pour vous donner ce que vous attendiez de lui. Et c'est là que vous allez devenir, vous allez apprendre à devenir un père pour vous. Alors, qu'est-ce que ça signifie apprendre à être un père pour vous? Eh bien, c'est simplement d'apprendre à prendre soin de certains de vos besoins, mais comme un père le ferait. Mais de nouveau, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vos besoins. D'accord? Bon, alors, quels sont ces besoins? Eh bien, je dirais que j'en ai identifié 6. Le premier besoin, c'est que vous allez prendre soin de votre besoin de sécurité physique. Parce que c'est vrai que le père a un rôle d'assurer la sécurité physique de l'enfant ou de la famille. Et donc, apprendre à être un père pour vous, c'est déjà prendre soin de vos besoins de sécurité physique. Faire attention à ne pas prendre trop de risques sur le plan physique, de ne pas vous exposer et de faire en sorte d'assurer votre survie, tout simplement. Deuxième besoin, deuxième acte, deuxième rôle que vous allez jouer, c'est apprendre à poser des limites. Parce qu'effectivement, un père, c'est quelqu'un qui pose des limites, ne fût-ce que en disant « maintenant, stop là, mon ami ou mon ami, tu attends avant de sortir de table, par exemple. » Hein, le père, c'est quelqu'un qui va poser des limites. Et donc, nous allons, si nous voulons devenir un père pour nous, eh bien, nous allons devoir apprendre nous-mêmes à poser les limites vis-à-vis des autres, de telle sorte que les autres n'envahissent plus notre territoire ou ne frustrent pas un certain nombre de nos besoins fondamentaux. D'accord ? Bien. Troisième besoin que le père va prendre en charge et que vous allez prendre en charge maintenant en tant que père pour vous-même, c'est de vous donner à vous-même des signes de reconnaissance. Parce que c'est vrai que finalement, dans cette notion de père qui enseigne à travers l'épreuve, donc le rôle du père, ça va être de prendre l'enfant qui est encore en fusion avec la mère et il va arracher l'enfant de la fusion qu'il vit avec la mère pour le mettre dans le monde. Hein, la mère met l'enfant au monde, hein, j'ai l'habitude de dire cela, mais le père va mettre l'enfant dans le monde. C'est le père qui va projeter l'enfant dans le monde en disant « Va mon fils, va ma fille, je te reconnais comme capable de te débrouiller par toi-même. » Et c'est là que le père va mettre l'enfant à l'épreuve pour que l'enfant découvre des compétences et des forces dont l'enfant ignorait l'existence jusque-là. Mais pour pouvoir oser aller dans le monde, vous comprenez qu'on a besoin de cette reconnaissance qui nous vient du Père. Et si nous n'avons pas reçu cette reconnaissance du Père, eh bien, il va falloir que nous soyons un Père nous-mêmes, pour nous-mêmes, en faisant quoi ? En nous donnant de la reconnaissance ? Oui, éventuellement, mais ça va être un peu difficile. Mais peut-être en cherchant d'autres personnes et qui vont nous donner de la reconnaissance. Quitte à ce que nous fassions des demandes, et donc ça va être la quatrième qualité que nous allons développer en tant que père, c'est oser poser des actes. Et parmi ces actes que nous allons poser, nous allons oser demander des choses. Nous allons oser demander à des tierces personnes qui travaillent avec nous, qui nous fréquentent, etc. Nous allons leur demander des signes de reconnaissance. Nous allons leur demander comment ils apprécient ce que nous faisons, etc. Vous voyez ? Pour petit à petit prendre soin de notre besoin de reconnaissance. Parce que tant que nous n'avons pas cette reconnaissance qui vient de l'extérieur, que nous pouvons nous donner à nous-mêmes aussi, mais c'est toujours mieux quand ça vient aussi de l'extérieur, eh bien, si nous demandons aux autres de la reconnaissance, c'est là que nous allons nous sentir plus capables d'entrer dans le monde et d'agir dans le monde, de poser des actes. Hein. Donc, être un père pour soi, c'est poser des actes concrets. Comme le père, le fait, c'est le côté martien, hein, le côté de Mars qui est en jeu à ce moment-là en termes d'archétype, c'est celui qui va aller à la chasse, celui qui va aller chercher de la nourriture pour nourrir l'enfant. Et bien, c'est ça que vous allez faire. Que vous soyez homme ou que vous soyez femme, vous ne pouvez pas échapper à cette notion de poser des actes. Cinquième élément qui va être déterminant d'être un père pour vous, c'est d'adopter une attitude de discipline. Hein? D'avoir cette discipline. Parce que dans Saturne aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais Saturne, c'est aussi la structure. Hein? En astrologie médicale, on dit que Saturne, c'est en relation avec la structure, avec le squelette, avec les os. Hein? Eh bien, c'est effectivement ça. À travers l'épreuve initiatique et à travers l'enseignement, nous allons acquérir une structure. Et ça, c'est quelque chose qui nous est demandé à nous. C'est-à-dire, plutôt que de nous reposer sur les structures extérieures de la famille, de la société, de l'entreprise dans laquelle je travaille, où je suis employé, etc., à un moment donné, il va falloir que je trouve ma propre structure à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que là, je vais me discipliner. Et plus je serai discipliné, et ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, plus je vais me discipliner, plus je vais découvrir une liberté. Parce que c'est à travers la discipline que la liberté peut vraiment être vécu pleinement et que c'est là que nous allons avoir un peu comme un danseur ou un danseur va avoir cette liberté de mouvement parce qu'il a eu la discipline de mettre la structure et d'utiliser la structure squelettique et articulaire au profit des mouvements qu'il veut faire. Sixième et dernière action que nous allons pouvoir faire, c'est nous réconcilier avec le temps. Hein, c'est nous réconcilier avec le temps qu'il faut pour accomplir certaines choses. Donc, c'est nous réconcilier aussi avec la notion d'incarnation. C'est d'accepter que pour réaliser certaines choses et pour cueillir le fruit de ce que nous attendons, il va falloir patienter. Il va falloir accepter qu'il faut du temps pour réaliser les choses. Hein? Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Le temps, effectivement, ne nous donnera de véritables bons fruits à consommer et à goûter que si nous avons accepté de mettre le temps nécessaire pour accomplir les choses. Voilà. Alors donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non seulement c'est être une mère pour vous, mais je vous encourage vraiment à la fin de cette vidéo à prendre un engagement solennel vis-à-vis de vous. À prendre cet engagement d'être toujours là pour vous. Je vous avais dit pour la mère, prenez l'engagement de ne jamais vous laisser tomber. Mais pour le père, je vous invite vraiment à prendre un autre engagement. Et cet autre engagement, c'est « tu pourras toujours compter sur moi ». Donc, parlez-vous à vous-même et dites-vous à vous-même « tu sais, tu pourras toujours compter sur le Père que je suis pour toi jusqu'à la fin de tes jours. Quatre choses à vous dire, rapidement. Première chose, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Continuez comme ça, j'adore vous lire, j'adore vous répondre et vous enrichissez de cette façon la communauté apprenante de tous ceux qui fréquentent cette chaîne YouTube. Deuxième chose, vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir d'autres réflexions complémentaires par rapport au sujet d'aujourd'hui, eh bien, voici mes deux suggestions du jour. Il vous suffit de cliquer sur une des deux images pour aller plus loin dans la réflexion qui a été menée aujourd'hui. Troisième chose, si vous voulez être prévenu de chaque mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur la petite icône qui se trouve en bas à droite de l'image pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Quatrième et dernière chose, merci à tous ceux qui partagent déjà le lien des vidéos à ceux qui leur sont chers. Je pense qu'en faisant comme cela, vous faites une différence dans la vie de ceux qui vous sont chers et en leur proposant gratuitement les réflexions que je vous partage tous les vendredis matin. Alors, à très très bientôt. Merci pour votre coopération. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre engagement à grandir en conscience, en amour et en compétences.